Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
J'arrive toujours pas quand même à croire que ça intéresse les gens. Et du coup, y a un moment où il faut se dire, bah, si, fais-le sérieusement, quoi, tu vois.
Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie.
Donc ça qui me dérange, cette justice, cette opinion publique qui fait la justice comme ça. Si t'as envie de rien faire chez toi et de rester comme un con et jamais de sortir de ta life, t'as le choix de le faire ou non.
Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Ah, eh bien, salut.
Salut.
Comment je t'appelle ? Violente Viande, Florian ?
Comme tu veux. Comme tu veux.
Je vais t'appeler Florian.
Appelle-moi Florian.
Ça va être plus simple.
C'est sympa. Ouais, Violente Viande, ça serait bizarre.
Mais merci de venir sur Nouvelle École.
Mais merci à toi.
Je suis très content de t'accueillir. C'est pas que j'ai découvert ce que tu faisais, c'est qu'en fait, il y a un pote à moi qui me harcèle avec tes posts Instagram depuis des mois, et je pense qu'il m'en envoie un tous les deux jours.
Qui te tague dessus?
Ouais, non, il me tague pas, il me les envoie par message.
Ah, d'accord.
Et je trouve ça marrant à chaque fois. Et au bout d'un moment, j'étais là, bon, c'est qui ce mec, tu vois? Et puis ensuite, après, on a commencé à discuter. Et c'est vrai que tu me fais marrer, tu me fais marrer vraiment quasiment tous les jours, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est marrant, il est trop fort ce mec, comment il fait pour ça?
C'est un travail, monsieur.
Ben, c'est ça, c'est un travail.
C'est de l'artisanat.
En fait, t'as commencé à. On va faire un truc non linéaire.
Ouais.
Parce que sinon, c'est chiant, je trouve.
Ouais.
T'as commencé à. Enfin, je vais décrire un peu ce que tu fais. Ouais. T'as différentes activités. Il me semble que t'as une marque de montre avec des potes.
Ouais.
Et que t'as un. Qui s'appelle Mona, je crois.
Ouais, qui s'appelle Mona, ouais.
Et que t'as un site aussi qui parle de cinéma.
Exactement.
Qui s'appelle comment déjà ?
Qui s'appelle Think Tank.
Que je suis allé voir pour le coup. Je suis allé lire l'article sur Solo. Il a l'air d'avoir un côté un peu. Comment dire, un peu décalé aussi, un peu comme dans tes posts, etc.
Donc, ouais.
T'écris beaucoup dessus, toi ?
Ouais, on est deux à écrire dessus. On a un troisième qui fait des piges de temps en temps. Mais sinon, ouais, on est deux à fond. Et on a choisi volontairement d'avoir un style éditorial, genre proche de la manière dont on parle tous les jours. Et vu qu'en fait, on n'est pas sponsorisé, pas financé de quoi que ce soit. En fait, on n'est pas tenu par n'importe quel organisme de distributeur de quoi pour respecter certaines lignes.
Je veux dire qu'il y a des choses à dire et des choses à pas dire,
donc,
sinon.
Du coup, on se lâche. Quand on a envie d'insulter un film, on le fait. Et quand on a envie d'en encenser un, on le fait aussi au-delà du raisonnable. Et voilà.
Tu vois. Là, je vais partir dans mes digressions, mais est-ce que la plupart des sites qui font des. Qui vont faire des chroniques de films ou de musique sont tenus d'avoir une certaine ligne ?
Non. Après, il y a deux styles. Alors, je tiens à préciser que ça va s'arrêter. Alors, tu viens d'en parler, mais le site va s'arrêter parce que justement, on s'était donné 2 ans et on voulait voir si on pouvait en vivre. Et au final, on n'a pas réussi à débloquer les bons trucs. Donc, du coup, on va arrêter.
Ça aurait été quoi, débloquer les bons trucs ?
Surtout se faire racheter par un groupe et devenir un média à l'intérieur d'un groupe, comme par exemple pourrait être comme fait Allociné maintenant, qui a été racheté par un énorme truc, ou comme fait tu vois, par exemple, le clic au sein de canal, tu vois, des trucs comme ça.
Mais quand tu fais ça, tu perds pas en liberté, justement?
Après, ça dépend de qui te rachète et quels sont les termes de travail. Donc, c'est sûr qu'il y a de toute façon, à un moment donné, une perte. Mais même le fait, tu vois, de, à travers Think Tank, on a pu rencontrer des, en tout cas sur Instagram et par mail, on a pu rencontrer des acteurs ou des réalisateurs ou des scénaristes. Et puis nous, tu vois, on est genre, si le feeling passe bien, on discute avec toi et on parle de cinéma avant tout. Du coup, c'est juste une histoire de passionné. Mais rien que ça, ça devient d'un coup un problème de censure, parce que tu dis, bah ouais, mais si je deviens pote avec quelqu'un, je vais peut-être pas le tailler comme je taillerais quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça nous est arrivé une ou deux fois où on s'est dit, ah ouais, mais ça fait chier si on dit vraiment ce qu'on, il va peut-être, tu vois ce que je veux dire. Donc on a, c'est vrai que de toute façon, il y a un espèce de mur comme ça au-dessus de nous à chaque fois, qui fait que bah, soit on décide d'y aller à fond, soit on fait semblant et c'est pas ce qui nous ressemblait. Donc on a décidé de faire le plus possible à fond, quoi.
Ouais, mais c'est vrai, c'est une vraie problématique. Je vais faire la chose pour laquelle on me critique le plus par rapport à Nouvelle École. Ouais. Tu sais, quand j'invite des gens,
ouais.
Et après parfois je deviens pote avec eux ou on s'entend bien, et après j'ai l'impression que j'arrive plus à apprécier leur travail de la même manière. Je le regarde via le biais de quelqu'un qui les aime bien, tu sais.
Ouais, c'est clair.
Et que je suis beaucoup plus peut-être indulgent, ou tu vois. Je sais pas encore trop comment gérer ce truc. J'ai peur de perdre mon sens critique, tu vois.
Bah après, c'est juste une question de des individus qui sont en face de toi. Je pense qu'il faut les gens qui arrivent à très bien séparer le personnel du professionnel, et qui arrivent à ne pas mélanger les deux, et qui savent très bien que si tu fais une critique, c'est forcément constructif, et etc. Mais c'est difficile.
Et donc ce que tu t'es mis à faire, et ce qui fait en fait en grande partie que t'es sur Nouvelle École là,
ouais.
C'est qu'il y a peut-être un peu plus d'un an, un an et demi, c'est ça ?
Ouais, un an et demi. Ouais.
Ouais, c'est ça, c'est en avril, je crois, 2017.
Ouais, c'est ça.
T'as commencé à écrire. Comment tu décrirais ça ? Parce que c'est une question qui te pose tout le temps les journalistes. Mais moi, t'écris plus ou moins des punchlines, quoi, sur Instagram.
Ouais, c'est des pensées ou des jeux de mots ou des. Ouais, c'est ça, des pensées ou des jeux de mots. Et j'ai commencé un dimanche, c'est toujours la même histoire, mais c'est vrai, hein, j'ai commencé un dimanche, je me faisais chier, chez moi, depuis longtemps, j'aimais écrire des conneries sur Facebook en statut, à l'époque où on pouvait mettre des statuts sur Facebook.
On peut plus mettre des statuts?
Non, on peut plus, tu sais, avant sur Facebook, sur ton profil, tu pouvais mettre un statut en titre. Et maintenant, tu peux écrire des messages que tu poses sur ton mur, mais plus des statuts qui restent. Et je faisais ça, et je postais des phrases cons pour faire rire les copains, tu vois. Et un jour, je sais pas pourquoi, ce dimanche-là, je me suis dit, tiens, mais comme j'aime beaucoup la typo aussi en général, j'ai trouvé une typographie que j'aimais beaucoup, et je me suis dit, tiens, mais si je la mets en forme sur Instagram et que j'écris mes pensées comme ça, qu'est-ce que ça va faire, quoi? Alors au début, tu vois, j'ai monté le compte. Le premier compte, c'était pas Violent de Viande, ça s'appelait Garçon Sensible. Il m'a été supprimé direct parce qu'il ressemblait au nom d'un shop sur Internet qui s'appelait Garçon Sensible. Je savais pas. Et du coup, je l'ai remonté.
Donc Instagram l'a supprimé parce que ça avait un nom similaire à un shop.
Exactement. Et du coup, j'ai repris en mettant Violent de Viande. Et donc au début, j'ai juste posté à mes copains. J'aurais dit, allez, je fais ça. Et en fait, du coup, c'est juste le principe du repost. J'étais reposté par des gens qui savaient pas forcément que c'était moi au début, dans mon cercle, parce que sur Instagram, j'avais un autre compte pour les montres. Et sur ce compte-là, je commençais à être suivi par des gens un petit peu connus du milieu parisien. Et je pense que, en fait, mes posts sur Violent Viande ont dû être suggérés dans leur feed Instagram parce qu'ils connaissaient Mona, je sais pas comment. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont tombé dessus. Et puis, j'ai été reposté.
Ça faisait longtemps que t'écrivais?
Ouais.
Mais alors, parce que là, juste avant, tu disais un truc aussi qui m'intéressait. C'est que tu disais, je me faisais chier un dimanche.
Ouais.
Mais t'avais et ta marque de montre.
Ouais.
Et ton site de
ouais,
ciné.
C'est vrai.
Comment ça se fait que tu faisais chier un dimanche?
Parce que t'as toujours du temps libre où tu t'es un peu oisif. Et la marque de montre, si tu veux, c'est du lundi au vendredi, samedi. Après, c'est surtout de l'entretien de communication sur les réseaux sociaux. Et le site Think Tank, c'est vrai que ça dépendait des news, mais on n'était pas un comité de rédaction dans un bureau tout le temps non-stop, tu vois. C'était vraiment de notre côté, on se voyait tous les jours, mais après c'était chacun chez soi ou le soir et tout. Et le dimanche, généralement moi c'était mon seul jour de repos. Parce qu'avant, avec la marque de montre, on avait une boutique. Et du coup, on travaillait le samedi aussi. Donc, le dimanche, c'était mon seul jour de repos. Donc, c'est vraiment que le dimanche, j'en profitais pour faire rien. Pour regarder American Dad sur Energy 12 quand ça passait à midi. Et voilà.
À Bordeaux.
Voilà, c'est ça. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Non, non, c'est ça. Je t'avais demandé aussi après... Ouais. À quel moment tu avais commencé à écrire, en fait.
Pardon. En fait, depuis longtemps... J'écris depuis longtemps, mais tu vois, genre c'est l'écriture pour soi, quoi.
T'écrivais enfant ou...
Ouais, enfant, j'écrivais. J'aimais beaucoup, même à l'école, j'aimais beaucoup tout ce qui était les dictées, les dissertations, les essais, les trucs comme ça.
Ça venait d'où, tu penses ?
Hein ?
Ça venait d'où, tu penses ?
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que j'ai toujours aimé lire, mais pas plus que ça. Je crois que j'ai jamais lu les grands classiques. Par exemple, il y a plein de gens qui me disent « Tu devrais lire Romain Gary ». J'ai jamais lu Romain Gary, par exemple. Alors que je sais que si je lis Romain Gary, je pense que ça va tellement vriller mon cerveau jusqu'à la fin de ma vie que peut-être qu'il faut pas que je le lise.
Pourquoi tu ne lis pas, alors ?
Je sais pas encore, tu vois. Je sais pas. J'ai peur d'en fait de me dire, de lire Romain Gary et de regarder Violent Durand et me dire « Putain, mais en fait, tout a déjà été fait depuis 1000 ans. » Et tu vois, et me vomir sur moi-même en me disant « Mais voilà, tu fais que copier. » Donc, je préfère encore garder cette innocence-là.
Ouais, t'as envie de te dire que t'inventes ?
Alors ça serait prétentieux, mais j'ai envie de me dire que je suis pas influencé, tu vois. Parce que de nos jours, on est tellement... tu vois, l'exemple type, c'est le problème chez les humoristes en ce moment avec le vol de blagues. On est tellement influencé par un truc qui va se passer, genre, ça se trouve, tu vas me dire un truc marrant maintenant, et dans 10 ans, ça va me revenir dans la tête, transformé, filtré, amélioré. Et je vais me dire, ah putain, j'ai une idée géniale, et en fait, après, tu vas venir me voir, hey, te rappelles pas, on en avait discuté de ça. Et tu vois, en fait, c'est pour ça qu'en fait, tu peux jamais inventer, tu es toujours influencé, tu digères les choses. Et
tu crois pas que c'est obligatoire et que c'est à travers les époques, ça a toujours été comme ça?
Ah ouais, j'en suis sûr.
Je pense que si tu essaies d'écrire une chanson, par exemple, t'as entendu tellement de chansons dans ta vie que t'es forcément en train d'écrire un composite de plusieurs trucs que t'as entendu, non?
Je suis d'accord avec toi, une espèce de digestion. C'est pour ça que, du coup, dans la chanson, j'imagine que d'un coup, t'as des musiciens qui veulent faire autrement, donc ils se mettent à faire de l'écriture automatique sous hypnose, ou de faire de l'écriture en paradis artificiel, genre complètement déchiré, ou qui testent des instruments qui n'existent pas, électroniques, pour sortir un nouveau son. C'est toujours là, cette recherche-là de nouveauté, c'est sûr. Je l'ai pas encore.
Et toi, t'as pas envie c'est cette pensée-là de te dire que les choses que tu fais ont sûrement déjà été faites, elles te dérangent? Ou est-ce que t'as envie de t'en éloigner, en tout cas?
Ouais, ouais, exactement. Alors sans avoir la prétention de dire que je ferais mieux, mais juste au moins avoir l'idée de se dire, ben, ce que je fais, ça sort de moi, tu vois. Parce que sinon, t'imagines, c'est abyssal pour tout le monde de se dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, en fait, tout le monde l'a déjà dit avant une fois. En fait, on serait juste des espèces de transmetteurs.
Bah, c'est ce que disent certains. C'est ce que disent, par exemple.
Ben, on peut tous mourir, alors voilà, ça y est.
Il y a beaucoup d'artistes qui disent que c'est pas eux qui créent les idées. Ouais. Tu sais que c'est un peu une pensée bizarre, mais que les idées sont un peu dans l'espace et que tu les attrapes.
Les attrape comme
si
ça.
T'as affûté un peu ton,
ouais,
si t'as affûté ton esprit, tu les attrapes.
Complètement d'accord. Ouais.
Et comment tu fais alors toi pour t'isoler, enfin pas t'isoler, mais pour essayer de minimiser l'impact ou l'influence du reste sur ton travail?
Eh ben, je le fais pas, justement. En fait, juste, je me suis mis très tard au stand-up américain que je connaissais pas. Et
tu t'y es mis quand?
Genre, je crois que, enfin, vraiment, hein, quand j'ai découvert mais j'étais, je devais avoir quoi, 18 ans, 18 ans, 19 ans, quand j'ai découvert le premier spectacle.
Et maintenant, t'as quel âge?
J'ai 31 cette année. Quand j'ai découvert le spectacle de Gad Elmaleh où il l'a fait tout en stand-up, là.
L'autre, c'est moi?
L'autre, c'est moi, ouais. Et c'est là d'un coup où j'ai découvert. Plus l'humour des personnages avec le quatrième mur où on s'adresse à quelqu'un qui n'existe pas. Là, tu vois vraiment, j'ai vu quelqu'un qui s'adresse au public et c'est comme ça que j'ai compris ce que c'était un petit peu ce style du stand-up qui venait des États-Unis. Et j'ai perdu le fil de ma réponse, mais qu'est-ce qu'on disait déjà?
Tu as découvert très tard le stand-up américain.
Exactement. Donc par rapport aux influences, c'est ça?
Ouais.
Et du coup, je veux pas dire que je m'isole, mais en gros, bah, la manière de travailler, c'est, les idées, elles viennent, genre, on va discuter, on va dire un truc, et puis il y a un truc qui va me taper dans la tête, je vais le noter, tu vois. Ou genre, je lis les infos, ou genre, je discute avec des gens. ou des fois je vois des trucs et ça me fait sauter sur un autre truc, ou franchement je pense que il y a, enfin moi je fonctionne comme ça, il me faut un starter, tu vois, il me faut quelqu'un qui me lance. Et après, je renvoie la balle. Je suis assez bon pour la réplique, mais je partirai pas tout seul. Quoi.
Tu veux dire que tu peux pas te mettre dans une chambre isolée toute la journée et avoir des idées qui viennent ? Il faut qu'il y ait des déclencheurs ?
Alors, après, tu peux le travailler, ça. Mais par contre, et ça fait partie des moments où il y a des jours où, tu vois, où j'ai aucune idée. Et donc, je me force à écrire, je me force à trouver des thèmes. Et donc, c'est moins naturel que quand une idée vient et dirait que je la note et dirait que je la sors. Mais c'est aussi un travail d'écriture... que doivent faire, je pense, les gens qui vivent de ça ou qui prennent ça vraiment pour au sérieux, tu vois. Je repensais justement à ton podcast avec Roman Frécinet, où lui expliquait que justement il a maltraité l'inspiration, quoi, tu vois. Genre, il travaillait sans relâche pendant des heures, des jours, et s'il avait pas l'idée, apparemment, il a appris des codes, enfin, il a débloqué des trucs dans son cerveau qui font que maintenant il va plus vite. Mais, c'est vrai que moi, je fais pas encore ça à fond. Peut-être parce que, ça fait que un an et demi que je fais ça, et du coup, j'ai peut-être pas encore assez pris ça au sérieux, tu vois.
Parce que tu produis quand même, t'en sors une par jour, c'est ça?
Deux, trois par jour.
T'en sors deux, trois par jour?
Généralement, c'est deux, des trois, des fois, quand j'ai envie.
D'accord. Donc ça veut dire que donc déjà tous les jours, faut que t'en aies. Est-ce que en général ça va entre une et deux phrases, quoi, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Et mais en fait, pour avoir déjà écrit pas mal, je sais que plus c'est court, plus c'est difficile.
Ouais, c'est ça.
Donc ça doit te prendre un temps fou.
Ouais.
Donc en fait, t'es obligé de tous les jours travailler, ou est-ce que t'en mets en stock?
J'en ai en stock, mais pas que je me dise tiens, celle-là je la garde pour plus tard. À part si une sur la Coupe du Monde que je sortirai pour la finale. parce que si la sort trop tôt, je vais me spoiler. Et
donc c'est quand même une grosse discipline, non?
Ouais.
C'est comment t'organises ton, enfin c'est quoi ta vie du coup là? Parce que ce truc a pris énormément d'ampleur. Je l'ai pas dit, mais en fait t'es déjà, il y a plus de 100 000 personnes qui te suivent là sur Instagram. C'est allé super vite.
Ouais.
Comme tu disais que c'était grâce au repost.
Ouais, en effet, au repost.
Quand t'as pas mal de gens très suivis sur les réseaux sociaux qui repostent ou qui taguent leurs amis ou qui partagent tes posts.
Ouais.
Et donc ça fait que ça grossit. Mais quand même, il y a la discipline du fait que ça sort tous les jours et plusieurs fois par jour, tu vois.
Exactement.
Donc, comment tu t'organises en fait?
La journée type, c'est que je me lève, je mate les infos. Et après, je me mets à écrire.
Tu mets les infos pour avoir des idées, justement?
Non, pour juste être connecté au monde réel. Parce qu'en fait, je dévore les informations. J'ai une espèce de peur panique de pas savoir ce qui se passe dans le monde. Et de me sentir comme un mec... j'aime bien être seul et isolé, mais il faut que je sache ce qui se passe autour, tu vois.
C'est marrant, parce que moi, je vraiment lis ni ne consulte aucune info.
Ah ouais?
Zéro depuis, je pense, 2 ou 3 ans.
Ah non, mais si...
J'ai arrêté consciemment, quoi.
Ah bon?
Ouais.
D'accord.
Je trouvais qu'en fait, il y avait aucune information qui me servait à quelque chose, et que quand les informations étaient essentielles, je les apprenais immédiatement. Typiquement, je sais même pas ce qui est essentiel en fait.
Mais genre,
s'il y a un attentat, c'est sûr que je vais le savoir.
Ouais.
Et qu'est-ce qui est essentiel d'autre en fait? La Coupe du Monde peut-être.
Ah bah, tu vois, tu veux bien en parler, j'en parlais justement hier soir avec un pote. En ce moment, je suis en train de me faire tous les midis quand je mange une espèce de récap ultra long de tout ce qui est science physique, physique quantique, monde parallèle, univers, machin, parce que c'est quelque chose que j'adore, et pour moi c'est de la magie, tu vois. C'est et je trouve que on devrait en avoir à 20h tout le temps des émissions comme ça à la télé. Et il y a ce besoin, je pense, de quand t'as quitté l'école, parce que moi j'ai eu mon bac à 17, j'allais avoir 18 ans, et après j'ai fait un peu de fac, mais surtout après je suis parti en école d'art. Et tu c'est fini après le savoir en analytique comme ça, tu vois. Si tu veux, c'est tous les cours magistraux. Donc en fait j'ai découvert ce besoin d'aller voir, tiens, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi là en médecine biologique, de je sais pas quoi, j'ai appris un truc sur les intestins, ou alors comme je te disais sur la physique quantique, où j'ai appris un petit peu plus que c'était l'intrication des atomes. Et en fait c'est super intéressant de considérer l'information comme ça, parce que c'est vrai que quand tu regardes les news, l'information de tous les jours basique, c'est juste des réactions à un problème plus grand. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir, par exemple, s'il y a un attentat ici, quelle est la géopolitique du pays dont viennent les attaquants, tu vois, des trucs comme ça.
Mais ça, tu l'apprends avec les news, parce que j'ai l'impression que, justement, les news t'éloignent de la source du problème en te donnant finalement que des faits qui
bien
sont
sûr.
Un peu déconnectés.
T'as raison, mais je l'apprends pas avec les news. C'est juste qu'après, il faut faire un travail de croisement d'informations et de faire de recherches toi-même, c'est sûr.
Ouais, parce c'est que sûr. Si tu t'intéressais à la physique ou même aux intestins, je pense que j'ai mon avis là-dessus, mais il vaut ce qu'il vaut, c'est que finalement, tu vas plus vite si tu prends des bouquins. Même un bouquin d'il y a 10 ans, sauf si la connaissance à l'intérieur est obsolète, mais que tu vas plus vite en prenant un bouquin et en te faisant la connaissance, un peu comme dans un cours magistral. Finalement, un livre, ça ressemble beaucoup plus à un cours magistral que des news.
Des news,
ça ressemble peut-être plus à des tweets un peu.
Ouais, t'as raison.
Tu vois?
T'as raison. Non, mais c'est pour ça que je regarde les news pour m'informer de. Enfin, je le fais aussi parce que, tu vois, genre récemment, j'écrivais pour le site Click et j'ai essayé de trouver des news qui sont. Ou dedans, je peux fouiller quelque chose d'autre. Et du coup, je passais mes journées à aller voir ce qui se passait sur tous les sites d'actualité, que ce soit général ou des faits divers au fin fond de la France, pour arriver à trouver un élément que je puisse sortir pour parler d'un truc un peu plus général. Et c'est
toujours ça l'idée, c'est ça. C'est tu prends un truc spécifique et t'essaies d'en sortir quelque chose de général.
Ouais, exactement. Exactement, tu vois, genre le dernier, je parlais, c'était la mort d'Yvette Horner, et j'ai parlé du vieillissement des personnes âgées et de la société en général, un truc qui m'intéressait beaucoup. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc c'est intéressant à partir d'une petite news insignifiante, d'essayer de déceler un truc un peu plus grand et plus large, et puis surtout qui parle à tout le monde, quoi, aux individus.
Je crois que ça, c'est quelque chose que quand même beaucoup d'auteurs ou de stand-uppers ou d'artistes font, de prendre les news et d'en tirer quelque chose. Tu vois. Surtout quand tu dois faire quelque chose de quotidien, parce que du coup, ça te donne t'as un apport de matière, en fait, quotidien, c'est ça?
Ouais.
Ça doit être utile, ouais.
Ouais, c'est ça.
Donc, tu te réveilles, tu lis les news?
Ouais, je lis les news, j'écris, je passe beaucoup de temps à écouter de la musique, à traîner sur YouTube, je réponds aux mails auxquels j'ai besoin de répondre, aux appels, etc. Et puis, ouais, j'écris. Alors, ce qui est le plus dur, c'est de se lancer. Et je crois que t'en parlais dans un podcast de ça. Le plus dur, c'est pas d'avoir l'idée, c'est d'après faire tout le truc chiant, là, partir en guerre contre ton idée, c'est-à-dire étaler tout un truc avec le plus chiant, quoi.
C'est-à-dire
par exemple, tu vois, l'idée d'avoir une nouvelle histoire, et puis en fait, le plus chiant, ça va être de faire tout ce qui se passe dans ta tête, mais qu'il va falloir l'expliquer à d'autres personnes, c'est-à-dire un illustrateur, un éditeur, un scénariste, un producteur. Et du coup, en fait, il faut coucher sur le papier tout ce qu'il y a dans ta tête et qui est ultra bien structuré. Et une fois que c'est passé sur la feuille, c'est déjà un petit peu affaibli par la syntaxe, ta manière de réfléchir ou de construire les phrases.
Ah, tu veux dire que ton idée, que l'idée comme elle est dans ta tête, elle est moins claire sur papier, c'est ça?
Ouais,
elle est moins efficace, c'est ça, et que ça, c'est la partie chiante pour toi?
Ouais, c'est la partie la plus chiante. Et une fois que cette partie-là est passée, tu vois, là, j'étais en train de travailler sur une BD où en fait, c'est une espèce de projet de saga où qui mélange à la fois chevalerie et heroic fantasy. Et du coup, en fait, le plus intéressant de tout ça, c'est de construire tout un monde avec des personnages, des idées, des intrigues et des relations entre les personnages. Et après, de se dire, par quel côté j'attaque l'histoire? Est-ce que j'attaque par un mec qui connaît rien et qui découvre un monde? Est-ce que j'attaque par quelqu'un qui est déjà dedans et qui subit quelque chose, tu vois?
Et ça, comment savoir alors?
En fait, ça, tu te fais l'histoire dans ta tête. Et c'est ce que je me fais. Après, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que quand t'es fils unique et que t'es habitué à jouer tout seul, franchement, l'ennui aide beaucoup à l'imagination.
Toi, tu t'es beaucoup ennuyé?
Ouais. Ouais, mais je recommande aux gens de s'ennuyer parce que ça développe des astuces mentales pour s'éclater à fond. Hein.
Tu veux dire, tu t'ennuyais enfant déjà? Et tu t'ennuies toujours?
Un peu moins parce que t'as forcément enfant, t'as de l'insouciance. Là maintenant, t'as toujours un truc un peu chiant à penser, même si tu t'ennuies, tu dis ah putain, il faut que je paye ça ou ah putain, il faut que j'aille faire ça.
Mais t'as des souvenirs de, ça m'intéresse, hein, t'as des souvenirs de gros moments d'ennui enfant?
Ouais. Ouais. Ouais, grave. Des moments d'ennui où tu sais, les moments où on te dit d'aller te coucher mais t'as pas envie de dormir, tu vois. Et t'es même pas dans ce stade où tu somnoles, t'es juste dans le stade où t'attends dans le noir.
Ouais.
Donc tu t'imagines des trucs, il suffit que t'aies regardé un peu trop la lumière dans les yeux et puis là, quand ça éteint la lumière, ça te fait des petits trucs dans les yeux, du coup tu t'imagines que tu vois des étoiles, des conneries comme ça. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui me sont venues en ennuyant, ou genre dans le jardin de ma grand-mère l'été, où j'étais dans la forêt comme ça et je jouais avec des bâtons, je regardais les trucs, j'essayais de trouver des étoiles, où je m'imaginais que j'allais trouver des trésors dans le grenier, alors que non, pas du tout. À la limite, j'avais trouvé peut-être un vieux god à ma grand-mère, c'est tout. Un god en bois. Et voilà.
Et du coup, aujourd'hui, tu parce qu'en fait, j'en ai parlé récemment, je crois, c'était avec Roman Frissinet, justement, je crois. Ouais. T'essayes de t'ennuyer aussi. Enfin, tu penses, tu conscientises le fait d'avoir des moments où tu t'ennuies.
Ouais,
ou...
j'adore.
Ouais.
Ouais, j'adore. Et je suis le.
Mais ça veut dire quoi? Tu fais quelque chose? C'est actif de te dire là, je m'ennuie, par exemple, cette journée-là?
Non, c'est pas là, je m'ennuie, c'est là, je. Il y a plein. En fait, c'est ça. C'est la différence. Il y a plein de gens qui se. Quand ils ont rien à faire, qui se forcent à faire des trucs genre, tiens, on va sortir là, faut qu'on aille voir ça, faut qu'on aille faire ça. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, si je peux,
Tu culpabilises pas de t'ennuyer?
Non, pas du tout.
Ah, non, ça, et t'as jamais culpabilisé de t'ennuyer?
Non, jamais. Et j'ai la chance d'avoir une copine qui est comme moi. Et du coup, on se passe des fois des dimanches à rien faire, à juste se parler et pas forcément. En fait, parce que les gens qui bougent, ils vont quelque part pour faire rien quelque part ailleurs, tu vois. Et généralement, c'est ça. Ils restent statiques ou alors ils discutent. Et mais moi, autant rester. En plus, ouais, je crois que je suis très casanier pour ça. Vraiment. Genre, tu te fais un petit et j'ai besoin de repères physiques et spatiaux pour pouvoir être bien dans mon élément et tout. Je pense que c'est ça.
T'as l'impression que le fait de t'ennuyer t'aide à être plus créatif ensuite?
Ouais. Ouais, ouais. Ouais, parce que vraiment, et je crois qu'il y a plein d'écrivains ou d'auteurs, de penseurs qui ont dit l'oisiveté, vraiment, ça te déclenche. Bah, les mecs qui font le. Comment ça s'appelait? C'était l'école péripatéticienne, là où il parlait en marchant. Il y a plein de gens qui font ça, qui font des rendez-vous en marchant, des trucs comme ça.
L'école
parce que...
péripatéticienne.
Ouais.
Mais c'est ça.
Ça vient de Socrate ou je sais plus qui, un philosophe. Et en fait, il faisait l'école en marchant.
Mais péripatéticienne.
L'école dans la rue.
Péripatéticienne, c'est pas les processus.
Ouais. Okay. Ça vient de là. En fait.
D'accord.
Ça vient de travailler dans la rue, en fait.
Ok.
Et c'est des philosophes qui enseignaient dans la rue et qui enseignaient en marchant et tout. Et du coup, en faisant autre chose et en dégageant l'esprit de.
Un peu comme quand tu prends une douche.
Exactement.
Moi, j'ai toujours des idées. En ce moment, je me remets un peu à écrire des chansons.
Ouais.
Et j'ai toujours les idées à deux moments. C'est quand j'entre dans ma douche. Donc, ouais, maintenant, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone, je le pose parce qu'il y a un dictaphone dessus. Parce que vraiment, je sais que quand je vais entrer dans ma douche, au bout de 1 minute 30, j'ai une idée mais vraiment une idée trop bien. Enfin, qui a l'air trop bien. Après, généralement, elle est pas ouf, mais. Ouais. Et je sors, je fous de l'eau partout. Et je chante comme un débile dans mon dictaphone, genre, na, 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 na. Tu vois. Et après, je retourne prendre ma douche. Et pareil, quand je cours, je suis plein de sueur, je suis dans un parc. Et faut toujours que je m'arrête à un moment que je suis essoufflé, que je chante mon truc dans mon dictaphone. Et c'est vrai que c'est toujours à ces moments-là que j'ai des idées, quoi.
Ouais, ouais. Bah, tu vois, moi, c'est pas la douche, c'est le sport. Et c'est une espèce de méditation. J'essaie de partir entre
c'est quoi que tu fais comme sport?
Ouais, je vais à une salle de sport et si tu veux, c'est du cardio, tu cours. Bon, je vais pas tout raconter parce que c'est mon jardin secret. Mais des trucs qui te vident la tête. Et du coup, c'est là où viennent la plupart de mes idées, ouais. Genre vraiment en étant actif autrement, mais genre vraiment en occupant le corps à faire autre chose. Et la douche, c'est un bon exemple, hein, c'est vrai. Alors, je passe pas des heures dans la douche, mais je suis très propre, je le précise. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a besoin de ces moments d'ennui.
Mais tu te dis pas, parce que moi, pour le coup, contrairement à toi, et malheureusement, je me sens hyper coupable quand j'essaye de plus en plus de m'ennuyer. Je pense que je progresse à me sentir de moins en moins coupable, mais je me sens quand même coupable, tu vois. Par exemple, si je fais rien toute une après-midi, je vais vraiment me dire, putain, t'as vraiment perdu une après-midi.
Une
vois
grosse merde.
Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais vraiment. Et toi, tu te dis pas, mettons que tu passes un jour à rien faire, tu te dis pas, oh là là, si tous ces jours que je passe à rien faire, je les passais à jouer du violon, tu vois.
Ça serait un contre-argument qui me plairait beaucoup. Je me dis pas ça, à part ce que tu viens de dire. Mais, non, parce que.
Comment ça, à part ce que je viens de dire?
Bah, c'est vrai que une activité artistique comme ça, c'est vrai que ça te fait réfléchir. Tu dis putain, ces jours où j'ai rien branlé alors que j'aurais pu apprendre un instrument, ça c'est un truc qui me parle. Après, tous ces jours où j'ai rien foutu alors que j'aurais pu aller voir une expo ou j'aurais pu bouger,
ah ouais, non,
ça
mais
me ça, fait rien du tout. Mais par contre, tu restes pas inactif pour autant parce que je pourrais me dire, enfin, je m'en veux par contre quand je passe une journée à avoir joué sur Far Cry, tu vois.
Ben voilà, c'est ça, parce qu'il y a différents types d'ennuis.
Ah ouais.
Il y a l'ennui où t'es assis sur un fauteuil, mettons, où tu vas marcher. où tu lis un peu des bouquins et du coup ça crée quelque chose dans ton cerveau,
veille,
tu vois.
C'est une veille que tu fais, ouais.
Et t'as l'ennui où tu mates toute une saison de La Casa des Papel. En plus, je trouvais ça vraiment hyper nul.
J'ai pas vu.
Mais hyper addictif.
D'accord.
Et j'ai maté, je pense, 11 épisodes sur 13. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça se finissait pas à la fin de la première. Spoiler, d'accord. Désolé.
Oh, c'est pas...
non, pour les gens qui écoutent.
Mais personne n'écoute.
Ouais. C'est ça.
Les bâtards.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, et ça, par contre, c'est pas de l'ennui très, ni très gratifiant, ni très utile, en fait.
Exactement. Exactement. Et je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai du mal à rester en place devant une journée entière à mater des séries ou à mater un film. Faut toujours que je, tu vois, je prenne mon portable, que je regarde un truc, ou que je me lève, que j'aille faire autre chose. Alors, est-ce que c'est lié avec un problème de concentration? C'est possible.
Toi, t'as l'impression que t'as des problèmes de concentration?
Ouais. Ouais. Alors, j'essaie de me rappeler ce temps où, quand on était en examen, j'ai fait un bac L, donc tu te tapais des espèces de dissertes de 8 heures d'affilée. J'essaie de me souvenir de ce temps où tu n'avais pas le droit au portable, à la musique. Et t'arrivais à rester concentré. Et alors.
Tu crois que t'arrivais à rester concentré?
Ouais, franchement.
Peut-être que tu partais dans ta tête, peut-être, non?
Ouais, j'arrivais à rester concentré. Et là, maintenant, quand je vois que. À part si le film est bon, je commence à regarder mon portable en luminosité réduite dans le cinéma, si le film me saoule un petit peu sur des moments et tout, en fait, ouais, tu restes pas concentré.
Mais il y a des films que je regarde en x2.
Le seul film où je suis resté autant concentré alors qu'il est putain de long, c'est le dernier film, c'est Mektoub My Love de je sais plus qui. Et il dure 3 heures, mais tu t'emmerdes pas une seule seconde, t'es, sollicité au niveau de tous les sens, visuel, auditif. Enfin, bon, bref.
Ouais, c'est vrai que quand j'étais petit, j'avais toujours les mêmes cassettes vidéo qui n'étaient pas forcément des bons films, mais que je regardais vraiment de manière captivée, tu vois.
Ouais,
peut-être qu'on a perdu ça, ouais.
Ouais.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mais du coup, tu fais quoi? Tu gardes quand même ton téléphone?
Ouais. Ouais, je m'en veux, je suis vraiment une grosse merde. Bah,
mais parce que tu arrives quand même finalement à sortir tes deux à trois phrases par jour,
ouais.
Plus à bosser sur tes articles, parce qu'en fait, ton Violent Viande, le compte a mené, vu que ça fonctionne bien, à plein d'opportunités, non?
Exactement.
Là, je vois que tu as écrit des genres de chroniques, en fait,
ouais.
Pour Clic, c'est ça?
Ouais.
Où tu vas.
J'ai écrit la dernière et là, après, c'est l'été, on verra si ça reprend en septembre.
Voilà. T'as sorti une BD avec,
ouais,
une illustratrice
avec Lucie Macaroni.
Voilà. Elle s'appelle La Vie est Bonne.
Elle s'appelle La Vie
est Bonne. Petit moment promo.
Ouais, exactement. 15,90€.
Je mettrai un lien affilié si vous voulez me filer des sous. Et donc ouais, en fait, t'arrives quand même à être très productif, même avec ce que t'appelles des soucis de concentration.
Ouais, exactement.
Est-ce que t'as vraiment des soucis de concentration, tu vois?
Alors au final, j'ai trouvé une parabole, n'importe quoi, une parade à tout ça. parabole. En fait, c'est que au lieu d'avoir un, moi j'aime bien, j'ai un problème, c'est que je dis jamais non au projet, et donc en fait j'en ai beaucoup en tête. À chaque fois qu'on me dit tiens fais ça, je dis ah ouais, ça m'a l'air trop bien. Du coup, ce que je fais, c'est que je les sépare, et quand j'ai plus d'idées sur un, je passe à l'autre. Tu vois, et plutôt que de me buter sur un seul et ça vient pas et je m'ennuie et je perds de la concentration et je vais faire un truc nul, ben je me dis tiens, je passe à un autre. Est-ce que j'ai une idée sur celui-là, etc., etc., etc. C'est
donc
comme ça que j'avance.
Mais du coup, t'as toujours plein de projets sur le feu.
Ouais.
Et t'as pas l'impression parfois d'en avoir trop et de...
Si. Ok. Si. Et de me dire mais t'es vraiment qu'un beau parleur, tu te mens à toi-même, jamais t'y arriveras.
Et t'y arrives alors finalement?
Ben alors j'ai réussi pour La Vie est Bonne. Mais bon, à la limite, j'avais juste à écrire des dialogues qui devaient être rigolos. Après, le plus gros du travail, c'était quand même Lucie qui l'a fait, à me supporter et à réussir à illustrer ma pensée malsaine. Et après, pour le reste, ouais, j'y arrive. C'est très long parce que du coup, il y a aussi le fait que j'arrive toujours pas quand même à croire que ça intéresse les gens. Et du coup, il y a un moment où il faut se dire, bah, si, fais-le sérieusement, quoi. Tu vois.
Qu'est-ce que tu veux dire, ça m'intéresse.
Bah, parce que si tu veux, moi déjà, Violent Viande, je vais l'arrêter l'année prochaine parce que j'ai pas envie d'être ringard. Je voulais que ça dure 2 ans.
Comme Nouvelle École.
C'est vrai, tu l'arrêtes aussi?
Non, attends, je disais ça juste pour un petit peu.
Info.
Non, mais ça a pas vocation à durer pour toujours.
Voilà. Et parce qu'il faut pas, il faut. Après, c'est peut-être prétentieux ou quoi, mais c'est vrai qu'il faut partir sur avec une que les gens aient une bonne idée de toi. Et j'ai pas envie de tomber pas des comptes avec des phrases. Maintenant, il y en a de plus en plus. Je suis pas là en train de dire que j'ai inventé quoi que ce soit. Je dis juste que, bah, à un moment donné, il faut laisser la place. Il y a des gens qui sont très bons, qui vont arriver, qui sont déjà là. Donc, je l'arrête l'année prochaine. Donc, c'est vrai que, il y a ce sentiment, dans l'interview avec Marion Séclin, elle en parlait, le syndrome de l'imposteur, tu vois. T'as quand même ce syndrome de l'imposteur. C'est pour ça que j'arrive pas encore
à... Toi, tu l'as. Tu te dis, ce que je fais, c'est pas génial.
Ouais, je l'ai à fond, ouais. Ou alors, c'est pas légitime, tu vois.
Ça veut dire quoi? C'est parce que personne est légitime à faire des phrases sur Instagram.
Eh ben, bien sûr. Non, mais je veux dire, par exemple.
Parce que quand si tu fais du violon, tu vois. Non, mais je comprends l'exemple tout à l'heure. Ok, il y a des maîtres, tu sais, dans le violon, il y a des maîtres depuis des centaines d'années. Mais sur Instagram, pas vraiment, quoi.
C'est pas faux. T'as touché à un bon point. C'est vrai. Et, non, mais pas légitime parce que, évidemment, moi, je commence à, j'écris des phrases. Mais ce que j'écris le plus, c'est des idées de scénario, autant dans la BD que dans le cinéma, tu vois. Le but vraiment, c'est d'écrire des films.
C'est ça que t'as envie de faire.
Et donc, du coup, quand tu commences comme ça et que les gens si tu veux, quand j'ai commencé à sortir, bah, j'ai eu l'opportunité de sortir une BD, je me dis, ouais, putain, il y a des mecs qui galèrent pendant 10 ans et, moi, genre, j'ai sorti ça, ça fait même pas un an, et j'ai trouvé une agent, Ariane. La meilleure. J'ai trouvé une maison d'édition grâce à elle. J'ai trouvé une illustratrice qui démonte. Et il y a des gens qui galèrent pendant très longtemps. Et genre, je suis édité, tu vois. Je suis édité quand même. Vous êtes dans le monde de l'édition, c'est de plus en plus rare, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a ce syndrome du mec qui a un peu grillé les étapes et qui. Alors c'est pour ça que j'essaie de respecter beaucoup de gens. Mais il y a ce syndrome de l'imposteur, ouais.
Dans l'autre sens, moi je trouve ça assez génial de se dire que tu peux, en faisant un truc un peu différent, un peu marrant. À avoir toutes ces opportunités, tu vois.
Ah ouais,
t'es plus obligé de ta. Moi, je vois ça du côté, t'es plus obligé de taper à la porte de la maison d'édition pendant 20 ans, à leur filer script sur script, idée sur idée, pour avoir finalement un jour la chance de. Tu vois, là, c'est presque eux qui viennent te chercher, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Parce que ça, c'est plutôt positif.
Ouais.
Et attends, on disait un autre truc sur lequel je vais embrayer.
Ouais,
tu vas parler du syndrome de l'imposteur. Et pourquoi on parlait de ça? Ah oui,
par rapport aux juifs, non?
Par rapport. T'as eu des problèmes avec ça, non?
Ouais.
Sur Instagram.
J'ai eu des problèmes avec les non-juifs.
Ouais.
À cause des juifs.
Pourquoi?
Bah, parce que c'est le problème des gens qui se prennent pour les super-héros à défendre des causes qui sont pas les siennes. Les leurs, pardon. Les leurs.
Toi, t'es confronté beaucoup à ça?
Ouais, grave.
Parce qu'en fait, ce que tu fais, il y a un côté un peu provoque dedans. Ouais.
C'est le côté, tu sais, de l'enfant à qui on dit touche pas aux allumettes, tu vois. Enfin, aucun rapport, bien sûr, par rapport à tout ce qu'on dit. Mais du coup, j'aime bien beaucoup jouer avec les clichés. Et évidemment, de nos jours, le plus grand truc auquel tout le monde dit on peut pas y toucher, on peut rien dire, c'est la communauté juive. Et je me suis dit, bah si, on peut dire des choses, parce qu'en plus, moi, je rigole avec beaucoup de juifs, et c'est les premiers à faire des blagues sur eux-mêmes et à jouer des clichés, parce qu'ils disent tiens, bah personne nous attaque jamais. Enfin bref, donc c'est vraiment c'est un faux problème parce que en fait. C'est un peu le. J'essaie d'analyser ça et je pense que ça vient aussi du problème du riposte. C'est qu'il y a des gens qui atterrissent sur mon compte alors qu'ils ont été amenés par une phrase qui parlait de cul ou de bite, n'importe quoi. Donc ils ont aimé, ils sont abonnés et puis en fait ils n'ont pas capté que derrière, il y a des fois où je tabasse les noirs, les roux, les arabes, les juifs, les gros. Et donc du coup, ils se disent ah mais attends mais t'es vraiment un salopard, espèce d'antisémite. J'ai eu des insultes comme ça, espèce d'antisémite. Espèce de dieudonné. Si j'avais son talent. Et voilà.
Ok, et ça, ça fait quoi comme problème? En fait, il signale tes publications,
ouais,
c'est ça?
Il signale, ouais.
Il y a un risque que, par exemple, ton compte se fasse complètement suspendre?
Ah, sûrement, ouais.
Ah ouais?
Ah ouais, sûrement.
Parce que finalement, ça arrive beaucoup que les gens signalent. Ils signalent en masse,
ouais.
C'est ça? Ou...
Surtout quand ça parle de. Bah, des communautés, des minorités. Genre, les plus de signalements que j'ai eu, c'est sur les noirs et les juifs. Si j'ai eu un truc sur les femmes à l'époque, non, c'est toujours le cas, mais à l'époque vraiment au pic de l'affaire Weinstein, Weinstein, je sais pas comment on dit. Où du coup j'avais sorti un truc comme quoi les femmes c'est mieux quand elles veulent, un truc comme ça. Donc ouais, j'avoue. J'avoue. Ou alors ou un truc un peu plus qui rimait mieux, genre c'est mieux quand elle veut, tout simplement. Et évidemment, j'étais tombé sur des messages genre ouais, mais c'est mieux, c'est tout le temps mieux quand elle veut, voilà, un truc comme ça. Genre c'est même obligatoire. Et ouais, j'ai eu des problèmes de silence sur ça. Mais
t'en penses quoi de ça justement?
Bah, c'est la limite où évidemment tu peux. Tout le monde n'est pas sensible de la même manière aux choses et je respecte ça. Tout le monde ne prend pas de la même manière une blague. Mais bon, je pars du principe que quand t'es sur mon compte, tu sais à quoi t'attendre, quoi.
Mais est-ce que tu crois qu'il y a des comment tu fais toi pour est-ce que t'es atteint par ça ou est-ce que t'arrives à rester à te dire non mais c'est bon j'écris mes blagues.
Ah ouais, ouais,
il y a des gens que ça offusque mais c'est leur problème.
Ouais.
T'arrives à te dire ça?
Ah ouais, grave.
Ok.
Bah c'est l'avantage de finalement de jamais se montrer. Moi je suis un espèce, on dirait un robot à Instagram, hein, mon truc, genre je me montre jamais, je réponds aux messages mais c'est assez succinct.
Ouais, alors c'est pour leur dire d'aller,
ouais.
D'aller voir ailleurs.
Ouais, 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 voilà. Donc du coup, je pense qu'il y a directement j'ai mis une barrière, mais c'est vrai que si je, par exemple je tenais une émission de un truc un peu plus mainstream ou parce que j'ai 100 000 abonnés mais je suis pas très connu non plus, alors que là si j'étais genre à la radio ou à la télé tenir des propos comme ça et se faire insulter par exemple de raciste ou d'antisémite qui pour moi sont des mots qui veulent rien dire parce que genre c'est vraiment des idées qui sont à des années-lumière de ce que je ressens, je pense que ouais, ça me ferait un peu chier. Tu sais, d'être jugé sans pouvoir te défendre, parce qu'une fois qu'on te dit raciste ou antisémite, c'est fini, tu vois. C'est comme quand on dit quelqu'un qui l'a harcelé sans avoir de preuves, tu vois. C'est fini, il est à vie, il a une étiquette de violeur, tu vois. C'est donc ça qui me dérange, cette justice, cette opinion publique qui fait la justice comme ça. Voilà, j'ai un peu dérivé, mais
non. Et dans ce cadre, en fait, parce que j'ai l'impression que bon, c'est perso, après c'est un truc personnel, mais les choses qui me font rire sont souvent à la limite du correct.
Ouais.
Je pense que c'est souvent comme ça en fait. Ce qui fait rire, c'est un décalage, une surprise. Je sais plus qui disait ça, c'était il y a longtemps, c'était Adrien Méniel, je crois, qui disait que dans le rire. En fait, maintenant, j'en arrive à un stade où je cite Nouvelle École. Tu vois,
c'est l'épisode 3.
C'est bien pratique cette affaire. Qui disait que le rire était d'abord une surprise. Et je pense qu'il y a vraiment de ça. Moi, quand je lis des trucs et que ça me fait marrer, c'est parce que tu sais, ça me surprend. Je m'attendais pas à ce truc-là.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, forcément, c'est toujours un peu à la lisière de ce qui est correct, parce que ce qui est vraiment correct a déjà été vu et revu et entendu et réentendu.
Ouais.
Et dans ce cadre, en fait, c'est pas idiot et c'est pratique peut-être d'être anonyme ou de,
bien sûr,
de pouvoir faire ça comme ça.
Ah bah bien sûr, ça m'évite peut-être de me faire taper dans la rue par la LICRA, par exemple, qui pourrait tomber sur mes postes et là je me ferais incendier, je pense. Mais sinon, j'ai pas vraiment de. J'arrive à faire la distance. Rien que moi-même, avec cet effet, ce phénomène de pseudo-célébrité, j'arrive à faire la distance, tu vois. Si tu veux, chez moi, entre potes, on n'en parle jamais, ou alors on dit, ah, tiens, t'as posté ça, tiens, j'ai une blague, ou on se raconte vraiment des blagues. Il n'y a pas, donc du coup, même avec des critiques, ça m'atteint pas.
Tu crois que le fait d'être hors de Paris, ça t'aide à ce que ça t'atteigne ou pas?
Non. Je sais pas. Peut-être que ça m'aide à avoir une bonne raison pour pas venir à des événements auxquels on m'invite. Pas tous, je précise, pour les gens qui écoutent, qui sont mes amis.
Mais sinon, t'arriverais à dire non, vu que tu dis que t'arrives à dire non à rien. Si t'étais à Paris et qu'on t'invitait, t'irais.
Moi, je suis pas du. En fait, je pense que je déteste les gens. Et du coup, l'idée de me retrouver dans un endroit public avec plein de gens et de savoir qu'on m'invitait parce que c'est juste moi. Alors là, déjà, j'aime pas fêter mon anniversaire. Alors imagine être invité à des trucs pas mondains, mais tu vois, des soirées, des événements, des vernissages. C'est pas trop mon délire.
Ton délire, c'est de rester chez toi, en fait.
Ouais, grave. Ah, non, mais à l'heure d'un vernissage, j'ai toujours mieux à faire, tu vois. À 19h, c'est vraiment une heure bâtarde pour les trucs comme ça. Pour les débuts de soirée, t'as toujours à 19h, je sais pas, tu fais quoi? Tu fais du sport? Tu t'es en train d'écrire ou tu bois l'apéro avec des potes, quoi. C'est pour ça, je m'écarte de ça.
Et j'en reviens, on a fait une digression très intéressante.
Grave.
On parlait d'un truc sur, tu sais, le fait de dire non au projet, que du coup tu te retrouves toujours avec plein de projets, tu vois. Et t'as l'impression quand même d'arriver à produire des choses, de la, d'une qualité qui te satisfait, même en ayant autant de trucs sur le feu, ou est-ce que parfois tu c'est la galère, quoi, tu te perds dans le truc?
Ouais, j'avoue. Ouais, il y a des fois tu te perds. Après, pour l'instant, tu vois, c'est pour ça que merci encore de m'avoir invité, mais j'ai pas encore fait beaucoup de, j'ai pas encore beaucoup de faits d'armes derrière moi. Donc c'est que des projets vraiment enfin pas embryonnaires, mais je veux dire c'est en construction, quoi. Les seuls qui sont sortis, c'est la BD et les chroniques et le travail que je fais avec Camille, l'humoriste Camille Lavabre, sur son spectacle. Donc du coup, c'est pour l'instant c'est une phase où je mets sur le papier toutes les idées que j'ai dû digérer depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, si tu veux. Et
depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, t'as des idées que t'exploitais pas, en fait.
Ouais,
c'est ça,
carrément.
Pourquoi tu les exploitais pas?
Bah parce que tu sais, ça reste dans la tête et tu te dis, enfin, je me serais jamais dit, tiens, je vais avoir l'opportunité d'écrire et que ça puisse toucher les gens.
Pourquoi tu te disais pas ça?
Je sais pas parce que j'ai jamais eu dans l'idée de faire ça. Moi, j'ai fait des études de littéraires parce que je voulais être dans la philo. J'adore la philo toujours. Et je me souviens qu'une fois, je voulais être publicitaire parce que j'avais vu Ce que veulent les femmes avec Mel Gibson. Tu sais.
Je crois que j'ai pas.
Cette vie, elle est géniale. T'es Mel Gibson, t'es à New York et t'es publicitaire. T'inventes des slogans pour Nike, trop bien. Et je me souviens, ma mère qui m'a dit, mais jamais il sera publicitaire. Je refuse que tu fasses. Donc si tu m'écoutes.
Pourquoi vraiment, elle détestait la pub?
Non, pas du tout. Je sais pas. Je pense que ça lui faisait peur de ce monde-là, sûrement. Tu vois. Alors. Et puis en fait, donc du coup, je suis parti dans une voie quand même assez générale. Donc j'ai fait un bac L, j'ai fait une fac de philo, je l'ai foiré complètement parce que ça, finalement découvrir cette ambiance là ça m'intéressait pas.
Quelle ambiance?
L'ambiance cours magistraux et la fac où t'es vraiment parachuté au milieu du pas. Moi je viens de la campagne, on était 300 dans mon lycée, tu vois. Quand t'arrives à la fac où t'es genre 5000 personnes et que en fait tu connais personne et que c'est tout pour ta gueule, bah ça m'a pas plu, j'avais besoin d'encadrement. Alors après je suis parti, je me suis inscrit à l'arrache dans une école d'art en MANA, en prépa d'art appliqué. J'ai été pris alors que j'avais même pas de dessin sur moi, mais j'ai amené mes bulletins de notes et ils ont cru en moi, merci. Et après j'ai fait une école de design et j'ai eu mon diplôme, mais à aucun moment.
Et comment ça se fait que tu sois parti dans le design si t'avais
En fait, en prépa d'art appliqué, à un moment donné on avait un projet, on devait dessiner une fontaine et j'ai dessiné une fontaine et le prof m'a dit mais t'es fait pour faire du volume. Donc j'ai postulé à une école de design produit industriel et j'ai été pris et j'étais intéressé par en fait je m'en suis rendu compte tard, c'est que j'étais très bon en analyse et pas forcément en matérialisation des projets. Et c'est ça qu'en fait je pense qui m'a servi dans maintenant ce que je fais dans Violente Viande, c'est l'analyse des sociologiques, des comportements, des déplacements, des manières dont les gens font pour vivre, pour boire, pour tenir un truc. Et du coup, je pense que ça me sert beaucoup maintenant dans mes phrases.
Tu veux dire tous les petits trucs de la vie, tu veux dire?
Ouais, tous les petits trucs de la vie. Par exemple, tu vois, si t'avais un projet de dessiner un verre, bah, t'allais analyser la manière dont les gens boivent, à quel moment ils boivent, qu'est-ce qu'ils boivent, comment, le geste et tout. Est-ce qu'un geste, par exemple, tu vois, moi j'ai un grand nez. Donc du coup, quand je bois des verres de vin et que le verre est petit, mon nez, il touche le verre. Et du coup, je suis obligé de baisser la tête à fond, tu vois. Et en fait, t'as vraiment l'air d'un alcoolique quand tu baisses la tête à fond. Alors que si tu fais un verre plus grand pour les grands nez, mais en fait, t'as juste à basculer la main. T'as moins l'air d'un alcoolique. Et ça, tu vois, c'est des trucs intéressants en design. Voilà. Et c'est ce genre de d'analyse sociale que j'aimais bien faire. Je pense que voilà, maintenant, dans les gestes, j'arrivais à les remettre dans Violente Viande ou dans les BD ou dans les dialogues.
Et ça, c'était quand tu faisais du design, ça te passionnait. Enfin, tu voulais faire ta vie là-dedans.
Ouais, grave. Et puis en fait, tu vois, maintenant, je me rends compte que. Déjà, il n'y en a pas beaucoup de ma promotion et des autres promotions qui ont vraiment réussi. Et ceux qui ont réussi...
Ça voulait dire quoi, réussir?
Bah, nous, dans notre tête, c'était devenir designer soit indépendant, soit intégrer une grosse agence. Le Graal, c'était travailler chez Stark, tu vois, ou chez Mathieu Lehaner. Il y en a beaucoup qui, à la sortie, s'improvisaient ou devenaient... Il y a eu cette mode, tu sais, de genre... Tu sors d'école de graphisme ou de design... Et puis tu montes ton studio, mais ton studio c'est toi tout seul sur ton lit, tu vois.
Ouais, je vois, j'avais des types sur une école de commerce et tout le monde montait un peu des startups. Et ce que faisaient des gens pas cons, c'est qu'ils mettaient plein de gens dans leur boîte, mais en fait c'était tous eux. Ils ont inventé plein de prénoms, genre Thomas, Benjamin, et en fait, il n'y avait qu'une personne, et tous les emails redirigés vers un email ouais. maître, tu vois.
Ah bah ouais, mais il faut faire illusion au début, c'est
normal. VP of Sales, VP of Marketing, c'est tout le même mec dans sa chambre, en caleçon, tu vois.
Ouais.
Mais c'est pas con, ça.
Ouais. Ben voilà, c'est un peu ça, c'est la fougue quand tu sors, puis après, petit à petit, tes idées, elles s'estompent, quoi. Et c'est pour ça que je te dis que, ben, moi, après être sorti des études, j'ai passé un an entre Paris et Bordeaux, où j'avais... petit job dans une boîte de graphisme où j'essaie aussi de développer des projets perso. Mais c'est vraiment, j'ai monté la marque de montre et c'est comme ça qu'après j'ai fait vraiment ma place professionnellement parce que sinon j'aurais jamais trouvé de travail. Déjà, je supporte pas d'avoir un chef. Alors, c'est un problème.
Comment ça?
Ah, bah, j'ai un problème avec l'autorité. C'est-à-dire que j'ai vraiment un ego, mauvais esprit, mauvaise foi, qui fait que même si tu me dis un truc et que j'ai tort, je te dirais « Ouais, mais en fait... » Donc du coup, ça plaît pas à grand monde et je supporte pas ça.
T'as eu des expériences de travail qui se sont mal passées ?
Ouais, plein. À part tout ce qui était travail saisonnier, où là t'es là pour travailler, gagner de l'argent, donc en fait, tu t'en fous des remarques et tu bosses. Sinon, quand c'était dans différentes boîtes de design ou graphisme, c'était pas une boîte de graphisme, c'était un studio de graphistes qui était indépendant. Et là, tu sais que... Ouais, je sais qu'ils m'ont pas dit directement, mais c'est des remarques qui n'ont pas plu, quoi. Mmh. Et qui m'ont dit, bon, ben, va voir là-bas, fais voir, vas-y. Allez, salut, tu vois. Voilà, c'était ça.
Et ça t'a découragé de travailler dans le monde du salariat ?
Bah ouais, et puis en plus, vraiment, je supporte pas l'idée d'avoir un chef, quoi. Et je me suis toujours... J'ai toujours tout fait pour ne pas en avoir un. C'est pour ça que j'ai monté mon entreprise, j'en ai monté deux. Et à chaque fois, je savais que ça allait être dur pendant 2-3 ans avant de gagner de l'argent. Que finalement, toi, au côté de toi, t'as tes potes qui rentrent dans la vie active, qui commencent à voyager, qui commencent à s'offrir des trucs, tu vois. Et toi, t'es encore là comme un galérien dans ton coin. Ah, on va là-bas. Ouais, non, moi, je peux pas trop, tu vois. Mais c'est un sacrifice nécessaire pour moi. Et du coup, maintenant, grâce à Violente Viande, je peux enfin profiter, être blindé, avoir un yacht.
Est-ce que Violent Jones, ça te permet de gagner ta vie maintenant ?
Pas encore entièrement, mais ça me permet de dégager pas mal de fonds, ouais, par rapport à la BD, qui s'est déjà vendue à 250 000 exemplaires.
C'est vrai ?
Non. Mais vas-y, fais comme si. Ah, mais là,
là ouais.
Si c'est ça, l'éditeur, il vient, il me suce, tu vois.
Ouais.
Genre vraiment. Enfin, pardon, Pauline. Et sinon, qu'est-ce qu'on disait avant de dire des conneries comme ça ? Ouais. Ben, petit à petit, ouais, parce que du coup, je commence à rencontrer des gens qui sont intéressés par mon écriture, et ça va forcément déboucher sur des contrats.
Ouais, c'est ça. En fait, les projets, ils ont, y a des bénéfices tangibles et des bénéfices intangibles.
Ouais.
Et avec Nouvelle École, par exemple, je vois plein de bénéfices intangibles. Donc c'est pas, je gagne pas d'argent, tu vois, mais je rencontre des gens, finalement ça me crée des opportunités.
Exactement.
Qui ensuite vont peut-être m'amener de l'argent, peut-être dans plusieurs années, tu vois.
Bien sûr.
Mais ces bénéfices, ils sont réels. Ou pardon, ouais, je t'ai envoyé ma paille avec le coaching. Mais ces bénéfices sont réels, en fait, et on les prend jamais en compte quand on, je trouve, on les prend pas assez en compte quand on démarre un projet.
Ouais.
Tu vois, on n'y pense pas assez.
Exactement.
À tous ces bénéfices intangibles.
Ouais, t'as complètement raison. Moi, j'en ai là depuis un an et demi, c'est incroyable le nombre de choses que j'ai pu faire. Enfin, je sais que je parle à des gens à qui je parle naturellement, et j'envoie des conneries à des gens à qui d'autres personnes, genre, enverraient des mails avec des salutations, excusez-moi de vous déranger, des trucs vraiment très très magnanimes, très genre en prière. Ouais. Et ça, c'est incroyable, parce que j'ai passé du temps, si tu veux, quand t'es indépendant et que tu vas démarcher des gens. Pour les montres, c'était aller démarcher des entreprises, des fois des célébrités. Et en fait, t'as toujours un rapport de force qui est déséquilibré, c'est-à-dire que les gens qui vont, eux, ils ont pas besoin de toi, et toi, t'as besoin d'eux. Donc en fait, il faut les convaincre.
L'histoire de ma vie depuis que j'ai commencé ça.
C'est ça. Alors que grâce à Beyond Beyond, j'ai découvert un autre truc, ce qui fait que c'est un rapport d'égalité entre des gens qui veulent me rencontrer pour ce qu'ils voient sur Beyond Beyond et moi qui ai pas besoin de faire semblant d'être sympa, tu vois. Donc c'est pour ça que, tu vois, on parlait de Gringe tout à l'heure. Quand je l'ai rencontré, on a bu des canettes sur le canal, tu vois. Alors que, imagine, tu t'envoies un mail à Gringe pour ton premier podcast, et j'imagine que T'as dû dire bon, on se voit quelque part dans un café, c'est quand ça t'arrange.
Moi, c'était Navo qui m'avait aidé. Mais ce qui était marrant avec Grinch, c'est que la petite histoire, j'ai mis, je pense, 6 mois avant d'avoir une réponse de sa part. Parce que je pense qu'il avait plein de trucs à faire et que. Et vraiment, moi, j'envoyais des.
J'avais baisé des filles.
J'en sais.
Si t'écoutes ça, Grinch, je le sais.
Là, je laisse un petit silence, genre, tu sais, genre, il y a un malaise.
C'est un gros malaise.
Non, en fait, ça va. Je pense que j'ai dû envoyer un message. J'ai dû relancer, genre, toutes les 2 semaines pendant 2 ou 3 mois. Et après, je me suis dit bon et tout, donc je l'ai écrit tous les mois. Et je sais pas, en tout, j'ai dû lui envoyer 6 ou 7 messages. Et il y a vraiment un moment, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de lui casser les couilles, quoi.
C'est ça, mais c'est comme on en parlait tout à l'heure, c'est le problème de nous qui voulons beaucoup bien faire et être sympa. Et du coup, tu passes vraiment des fois pour un mec qui s'auto-flagelle et genre, calme-toi, on est juste, je suis comme toi. Je suis un individu normal.
Mais pour le coup, ça, j'ai vachement avancé là-dessus avec Nouvelle École. Je pense que le moment où j'ai invité Grinch, à ce moment-là, je me disais vraiment, oh là là, il y a Grinch qui va venir sur Nouvelle École. Et en fait, depuis, maintenant, j'ai plus du tout la même attitude.
Ouais.
Et du coup, c'est beaucoup plus facile aussi.
Bien sûr.
En fait. Parce que tu dégages quelque chose. Je pense que quand tu vas voir quelqu'un et que tu te places toi-même, tu le places toi-même sur un piédestal et toi-même tu te places inférieurement.
C'est gênant.
Tu crées une gêne. En fait. Tu crées la personne le sent. Mais d'ailleurs, moi, je fais toujours, ça, c'est de la vente, en fait. C'est du commerce. Et je fais toujours l'analogie un peu avec la drague, même si c'est pas forcément une très bonne analogie. Mais si tu vas parler à quelqu'un une fille dans un bar et que la personne sent que déjà t'es mal à l'aise.
Ouais.
Parce que t'as l'impression qu'elle est incroyable et que toi t'es une merde.
Ouais.
Bah, forcément, ça marche pas aussi bien. Tu vois.
C'est ça.
Ça crée un décalage.
Ouais. Ça m'est arrivé encore très récemment, tu vois, avec un mec que j'adore qui s'appelle Jean-André, un illustrateur. Et on s'est rencontrés. En fait, c'est un mec que t'aurais l'impression que c'est ton frère caché, tu vois. Et en fait, moi, avant, j'étais très très fan de son travail avant de le rencontrer. Donc du coup, dès que j'ai pu, je me suis acheté des tableaux de lui. Il m'avait fait un dessin pour Violente Viande. Je l'ai encadré et tout. Et un jour, il m'a dit, ouais, mais bon, arrête avec la flatterie parce que c'est gênant, tu vois. Et je dis, bah ouais, en fait, c'est gênant parce que en fait, on est juste pote, on s'entend bien, on apprécie chacun le travail de l'autre, mais pas besoin de se sucer la bite tout le temps. Donc voilà, tu grandis petit à petit comme ça.
Et d'ailleurs, c'est ça, au début, dans les messages que j'envoyais pour contacter les gens, il y avait pas mal de flatteries finalement. Je mettais un paragraphe en gros sur pourquoi ils étaient géniaux. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, ils s'en branlent de pourquoi ils sont géniaux. Ouais. Ils se connaissent, tu vois. Pas besoin de leur expliquer qui ils sont, tu vois.
Ouais.
Mais tu vois, vraiment, tu fais ça.
Après, il y a des gens qui aiment beaucoup la flatterie et qui seront, mais bon, c'est pas des gens bien, quoi.
C'est ça, ouais, c'est pas. Mais ouais, il y a un progrès sur tous ces trucs. Je sais même pas comment on en arrive à parler de ça.
Encore, c'est les juifs, encore. À chaque fois, c'est ça.
C'était Grinch, Canal, travail avec Grinch. Ah oui, les opportunités, ouais, voilà. Ouais. Le fait que tu rencontres des gens, tu peux travailler avec
eux. Et ça m'a donné des opportunités incroyables de rencontrer des gens haut placés qui, en fait, me reposte des phrases de moi horribles, tu sais, quand je parle des trucs de cul, quoi. Et c'est super simple, c'est super appréciable de cette espèce de locomotive comme ça qui te fait passer. C'est un coupe-fil, en fait. Ouais. Ce Violent Viande, c'est un coupe-fil qui permet d'accéder à plein de trucs, tu vois.
Et c'est ça, moi j'ai vraiment l'impression, c'est un hack un peu. Moi j'ai l'impression aussi que je me retrouve dans des trucs et je devrais vraiment pas du tout être là, tu vois. Et en fait, c'est pas juste parce que on est là avec 2 micros et un petit enregistreur et un coca, tu vois.
Ouais.
Moi, pour moi, c'est vraiment encore, tu sais, genre super amateur.
Ouais, c'est très bien.
Mais
c'est très bien. En plus, il y a plein de petits culs qui passent. Et des gros aussi, pardon. Mais bon. Voilà. Mets un autre silence de malaise, s'il te plaît.
T'inquiète, je suis là pour ça. Je voulais te dire un truc encore une fois, tu m'as coupé. Ça, c'est de ta faute. Ouais, justement. Donc, Violente Viande, ça te permet de gagner ta vie, ça te permet d'avoir plein d'opportunités, mais tu veux l'arrêter. Et du coup, je me disais, t'as pas peur de pas. Est-ce que t'es certain d'avoir le courage d'arrêter quand tu vas vouloir arrêter?
Je sais pas. En fait, allez, je dis pas j'arrêterai définitivement, mais au moins pendant un an, je vais mettre un stop à ça. Même un peu plus. En fait, c'est quand j'aurai décidé que je le ferai, que je reviendrai s'il y a moyen. Mais c'est vrai que le but, c'était vraiment d'utiliser Violente Viande pour un tremplin, pour faire d'autres choses, quoi. Tu vois, écrire pour le stand-up, pour Camille, écrire d'autres projets de BD, des projets des scénarios de films. Pourquoi pas, si j'arrive à me motiver.
Ça, le facteur, c'est la motivation.
Et non, mais après, c'est toujours pareil. Personne te motive, mais si t'as envie de rien faire chez toi et de rester comme un con et jamais de sortir de ta life, t'as le choix de le faire ou non. Donc, du coup, le but, c'est ça. C'est de vraiment, profiter de cette attention qui est là maintenant et qui va, j'espère, grandir jusqu'à avril prochain pour pouvoir, si tu veux, assurer mes arrières au niveau travail et qu'on puisse, et puis je puisse après me présenter en tant qu'auteur en disant ouais, mais avant j'avais Violent de Viande sur Instagram. Ah, ben je connais et tout. Cool, tu vois.
C'est ça ton but, c'est d'être auteur, c'est ça que t'aimerais vraiment?
Ouais, c'est ça.
Et auteur BD, ciné, c'est
ça? Ouais, exactement. J'aime beaucoup. En fait, tu vois, je pense que je pourrais jamais, par exemple, enfin, je dis jamais, il faut jamais dire jamais, mais en tout cas, je me sens vraiment pas prêt d'écrire un truc pour moi et de monter sur scène et de jouer un spectacle, tu vois. Mais par contre, écrire pour les autres, ouais.
Bah ça pourrait être un truc aussi qui t'intéresse? Monter sur scène avec ton propre spectacle?
Non.
Non.
Enfin, en fait, je sais pas, mais je suis tellement timide et j'ai tellement un rapport à l'image que j'aime pas trop, c'est-à-dire que j'aime pas me montrer, que je pense que si je passais sur scène, ça serait bon, soit une preuve de maturité, soit un aveu de trahison de mes valeurs. Alors, je sais pas encore lequel choisir, tu vois.
C'est assez radical.
Ouais, c'est
radical. Une grande fourchette.
J'ai pas envie de, voilà. Il y a un choix à faire. Je sais pas encore lequel prendre. Est-ce que, voilà, je me dis, bon, bah, vas-y, t'as aucune patrie, t'es une grosse merde, fais-le, va contre tes idées. Ou justement, tu dis, oh, en fait, t'as mûri, voilà, tu vois. Donc, je sais pas encore.
Est-ce que le fait que Violent de Viande, ça cartonne, ça t'a débloqué un truc mentalement au niveau de tes projets? Est-ce que tu trouves ça plus facile maintenant ou t'as l'impression que ça va être plus facile de créer?
Non, c'est plus facile d'attirer l'attention des gens. C'est-à-dire que quand t'es pas connu, les gens t'écoutent même pas. Mais là, c'est plus facile de dire tiens, j'ai un projet, est-ce que je peux t'en parler? Alors là, on t'écoute et ça, c'est super important. Mais après, c'est à toi de derrière assurer le truc. Donc c'est plus facile. Après, moi, ça m'a débloqué quand même un truc, l'écriture, l'exercice de l'écriture, ça m'a débloqué forcément des trucs, des schémas dans la tête qui font que je vais plus vite. Quand j'ai une idée, je sais comment la traiter, ou quand j'en ai une qui reste depuis 2-3 semaines, je la reprends, je me dis, oh, mais c'est comme ça que j'aurais dû l'écrire, tu vois, au niveau de la syntaxe et tout.
T'écris à la main ou t'écris sur ton ordi ou sur ton...
Non, à la main.
À la main?
À la main. J'ai un carnet, et je suis assez fétichiste du stylo et du carnet. Et après, je les retape, soit je les peaufine sur Illustrator à la fin, soit je les mets tel quel. Voilà.
Bah, merci beaucoup.
Eh ben, écoute,
Florian,
merci à toi
d'être venu sur Nouvelle École.
Merci Antonin.
Où est-ce qu'on envoie les virtuellement les gens qui écoutent et qui s'intéressent à ce que tu fais?
Ce sera la meilleure vanne. Bah, sur l'Instagram Violent Durne. Et puis après, vous pouvez tous acheter la BD La vie est bonne, que j'ai fait avec Lucie Macaroni.
Via le lien d'affiliation qui se trouve en bas de la description de l'épisode.
Exactement. Et il faut qu'on en vende 200 000. Donc, allez-y les gars. Et puis sinon, à très vite quoi. On pourra faire un épisode 2 quand j'aurai réussi. Voilà.
Réussi à quoi?
Je sais pas, quand j'aurai vraiment réussi dans une autre carrière.
Tu penses qu'un jour tu diras j'ai réussi?
Ouais. Et je pense que j'aurai réussi quand j'aurai fait un épisode 2 de Nouvelle École, tu vois.
Je sais plus qui m'a parlé de ça récemment encore, de faire un épisode 2.
Tu sais, une suite 10 ans après, comme dans les épisodes de Striptease.
Mais en vrai, regarde. J'arrête Nouvelle École et dans 10 ans. Ouais. Je fais nouvelle ancienne école, enfin tu vois un truc un peu genre la old new school. Et je réinterview tous les gens qui étaient, enfin si, j'espère qu'ils seront encore en vie.
Il y en aura qui sont morts peut-être.
Ouais, ça c'est un peu dommage. On pourra faire un truc avec un hologramme, hein, tu vois.
On prendra en photo sur la tombe comme ça. Ouais, ça alors c'est... Ah bah non.
Mauvais.
Voilà.
C'est peut-être mauvais goût ça. Ouais. Mais j'essaierai d'avoir ça pourrait être pas mal ça. Après ça serait, imagine c'est horrible, imagine ils ont tous trop raté leur vie et en fait ils sont trop malheureux.
En fait, tu te rends compte que vraiment tous les gens que tu as interviewé
sont
morts.
Tous les gens qui donnaient les conseils,
oh,
ils ont tout raté ensuite.
Aussi, ouais.
Bon bah écoute, merci beaucoup.
Bah merci à
et
toi.
Et puis bah c'est tout quoi en fait, il y a rien d'autre à dire.
Allez, stop.
Salut.
Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs sur patreon.com. Vous pouvez rejoindre cette communauté et soutenir Nouvelle École à partir de 2 euros par mois, soit un café par mois en allant sur patreon.com/nouvelle-école-podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Enfin, pour ne rien manquer des actualités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Nouvelle École. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine. Nouvelle École, je donne ça à l'ancienne.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.